Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine en ce beau mardi. Aujourd'hui, c'est Jean-Charles Algan qui vous parle et Jean-Sébastien, chef d'orchestre de l'émission pour la technique et le choix musical. Qu'est-ce que je vais vous lire aujourd'hui ? On va commencer par 15 beaux coins pour les vacances au Québec. Et puis, on va continuer avec des pique-niques, festins sur l'herbe. Ensuite, on peut passer par l'aéroport de Nice qui teste la reconnaissance faciale. Et puis, bien d'autres articles, si nous avons le temps. Quinze beaux coins pour des vacances au Québec. C'est Alain Demers dans la presse qui nous écrit tout ça. Des montagnes et des lacs faciles d'accès, le majestueux Saint-Laurent et même des bords de mer tranquilles, c'est un peu tout ça le Québec, fort de ses paysages variés. Pour s'émerveiller, pour se ressourcer et pour se sentir fier de notre si grand territoire, il y a toujours un coin à découvrir. On commence par l'île d'Anticosti, au cœur du golfe Saint-Laurent. L'île fait 220 km de long, un seul village, Port-Meunier. En camionnette louée sur place, on a accès à des bords de mer, des canyons et des chutes. On y croise souvent des chevreuils et même des renards. Auberges, chalets ou campings, avions de Montjoly, de Québec ou de Montréal. Deuxième possibilité, Percé. Au Géoparc, une plateforme vitrée au perché surplombe le fameux rocher et les alentours. Percé, c'est aussi les milliers de fouts bassins sur l'île Bonaventure et une dizaine de villages côtiers répartis sur 60 km. Excursion sur la mer en bateau ou en kayak, camping, chalet, motel et plus. Le lac Taureau, à Saint-Michel-des-Saints, dans Lanaudière, ce réservoir qui forme un parc régional comprend une quarantaine d'îles et de belles plages sauvages pour se détendre ou se baigner. Location de canots, site de camping rustique, réservation requise. Séjour aussi à l'auberge du lac Taureau en formule club. L'archipel de Mingan, ses monolithes géants intriguent. Ses macareux moines, surnommés perroquets de mer, fascinent. La vaste étendue de l'archipel sur la côte nord étonne avec plus de 1000 îles et îlots. La réserve du parc national se découvre à pied ou en kayak, site de camping, tente équipée à louer et petite auberge. L'île aux lièvres. Au large de Rivière-du-Loup, cette île encore sauvage, préservée par Duvet-Nord, est accessible par bateau. Le long de ces longues berges désertes, on prend plaisir à marcher. On y voit des phoques et on hume l'odeur des rosiers du littoral. Séjour en auberge, en chalet ou en camping sauvage. La baie des Chaleurs, reconnue comme une des plus belles baies du monde, elle est partagée entre la Gaspésie au nord et le Nouveau-Brunswick au sud. Sur 150 km de Passepédiac à Ristigouche, se succèdent plages, havres de pêche et lieux historiques. Hébergements variés, camping, chalet, gîte ou motel. Les fjords du Saguenay, évidemment. Impressionnant et en apparence inaccessible, le fjord se découvre aisément dans le parc national, sur l'eau, en bateau-mouche, en radeau pneumatique, en voilier ou en kayak de mer, sur les falaises, avec la via ferrata ou en sentier, à voir le charmant village de Sainte-Rose-du-Nord, chalet, gîte et camping. Magog, Orford, majestueux, le lac Manfred-Magog est très fréquenté pour la voile, cours et location à Magog même, croisière, location d'embarcation et plage. À découvrir le marais de la rivière aux Cerises à pied ou en kayak, sans oublier le parc national du Morford. Hôtel, auberge, gîte et fond d'hôtel.
Sous le tapis du vent, voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, devant d'Espagne en pluie d'Équateur, voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales, un regard de l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, voyage, et jamais ne reviens. Sur le Gange ou l'Amazon, chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas, au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés, un regard de l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, 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 dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, voyage, et jamais ne reviens.
La formation de Lost Fingers qui nous offre ici une version de ce grand succès de Desireless, Voyage, Voyage.
Merci Jean-Sébastien. Toujours dans les 15 beaux coins pour des vacances au Québec, je continue Saint-Élie de Caxton. La magie du village de Fred Pellerin en Mauricie, c'est l'arbre de Paparman. Faut que je recommence. En Mauricie, c'est l'arbre à Paparman. Le garage de la culture ou les tours commentées en voiture tirées par un tracteur. On s'y balade aussi en vélo. On loge pour pas cher au presbytère, dans une yourte ou à la station touristique Floribel à deux pas de la plage. À Tremblant, Mont-Tremblant évidemment, à Tremblant et aux alentours, la variété des activités est inégalée au Québec. En montagne, marche avec point de vue, spectacle d'oiseaux de proie, méga tyrolienne et parcours illuminé Tonga Lumina. Au pied de la montagne, plage du lac Tremblant et pistes cyclables. Et hôtels, auberges, belles cabanes et camping pour s'y héberger. Le parc national des Appalaches, pour partir avec votre chien. C'est le meilleur endroit. Votre fidèle compagnon est accepté partout, sur les sentiers ou en ponton, tout comme en chalet, en refuge ou sous la tente. Situé tout près du Maine, au sud-est de Montmagny, ce parc habité couvre 8 municipalités, dont Sainte-Lucie de Beauregard. Sorel-Tracy et les îles. Pour entrer au pays du survenant, il suffit de longer le chenal du Moine en voiture jusqu'à l'île d'Ambara. Mais on saisit mieux l'ampleur de l'archipel de 103 îles lors d'une excursion guidée en petit bateau, à louer canot, kayak et planche à pagaie. Et nouveau, Statera, la 104e île, un parcours multimédia. La Malbaie. Donnant une vue panoramique sur le fleuve, la Malbaie, dans Charlevoix, est considérée comme le berceau de la villégiature au Canada. Au manoir Richelieu, visite guidée et magnifique parcours de golf. À découvrir l'observatoire et l'astroblème de Charlevoix. Vous pouvez vous héberger dans les auberges de charme, chalets, villas et plus. Le parc de la Gatineau. Aux portes d'Ottawa, Ce parc, géré par la Commission de la Capitale Nationale, la CCN, est traversé par une petite route prisée par les cyclotouristes. Sentiers pédestres, points de vue et plages. À voir le domaine Mackenzie King et la caverne Lusk, camping, refuge et hôtel champêtre. Et enfin, le Vieux-Québec. Joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO, le Vieux-Québec est la seule cité fortifiée au nord du Mexique. La plage royale, le quartier Petit Champlain, l'imposant château Frontenac. Il y a beaucoup à découvrir à pied pour plus de disponibilité d'hébergement et de meilleurs prix optez pour la côte de Beaupré. Mais je vais continuer avec un petit article qui va nous compléter ces possibilités de beaux coins de vacances au Québec. On a déjà parlé de la baie des Chaleurs, mais là on va parler d'une petite Floride à Chandler justement. Les plages de Chandler prennent des airs du sud dans l'espoir d'attirer davantage de visiteurs. La stratégie a été développée par les élus afin d'augmenter l'achalandage déjà particulièrement élevé dans la région avant même les vacances de la construction. La ville a investi $70,000 pour mettre en valeur les plages de Pabos Mills et de Newport, en y ajoutant notamment des palapas. Dans ces trois lieux, les visiteurs peuvent aussi compter sur la présence de sauveteurs pour assurer la sécurité. On se croirait à Cuba, au Mexique ou en Floride. Selon le conseiller municipal du quartier Newport, Bruno-Pierre Godbout, les plages représentent un attrait récréotouristique majeur et sur lequel il est important de miser. Les gens, depuis quelques jours, nous disent « on a créé une petite Floride ». Puis on en est très fiers, dit-il. Un achalandage généralisé. Outre les plages, les visiteurs sont au rendez-vous ailleurs à Chandler. Les hôtels sont pleins, même au niveau du trafic sur les routes, on voit un achalandage assez marqué dernièrement, souligne M. Godbout. L'économie se diversifie dans la municipalité, on voit de nouveaux commerces, des nouveaux petits cafés et des petits pubs de microbrasserie, ajoute-t-il. Le café de Jean-Michel Audet fait partie de cette vague de nouveaux commerces. Le jeune propriétaire veut participer au développement de sa communauté. Il y a eu la Gaspésia qui a fermé et ça a pris quelques années avant qu'on se reprenne en main. Mais là, les commerces ouvrent, les touristes arrivent, la demande est là. C'est vraiment génial, soutient le propriétaire. C'était donc une petite Floride à Chandler. Et qui voilà ? Voici Olivier qui est venu nous rejoindre.
Bonjour.
Alors Olivier, bonjour. De quoi allez-vous nous parler ? Qu'est-ce que vous allez nous lire plutôt ?
Alors de la santé des Canadiens. Donc plus vieux, plus malade, portrait de la santé des Canadiens. C'est un texte de Daniel Blanchette-Pelletier. Les Canadiens vivent plus longtemps que jamais, mais ils n'échappent pas pour autant à la maladie. Malgré la progression de l'espérance de vie et le recul du taux de mortalité, de mauvaises habitudes de vie pèsent lourd sur leur santé. Au point où les experts les mettent en garde contre une crise de santé publique si rien n'est fait. Plus de 1 Canadien sur 6 est âgé de 65 ans et plus. Ce groupe d'âge croît 4 fois plus vite que l'ensemble de la population. Sans surprise, l'espérance de vie au pays est en progression constante depuis plusieurs décennies. Mais à quoi bon vivre plus vieux si la santé n'est pas au rendez-vous? Les habitudes de vie malsaines des Canadiens réduisent le nombre d'années qu'ils peuvent espérer vivre en pleine forme. Nous avons confirmé que l'inactivité physique, la mauvaise alimentation, la consommation abusive d'alcool et le tabagisme ont un impact majeur sur la santé, explique Doug Manuel, chercheur à l'hôpital d'Ottawa. Ces mauvaises habitudes réduisent non seulement le nombre d'années de vie, mais aussi les années vécues en bonne santé, résume-t-il lui-même étonné par le nombre d'années que peuvent perdre les Canadiens. Fumer diminue incontestablement l'espérance de vie, mais les mauvaises habitudes alimentaires sont la nouvelle source de préoccupation. Seulement le tiers des Canadiens consomment, par exemple, au moins 5 portions de fruits et légumes chaque jour. Si la part en fruits et légumes est insuffisante, c'est qu'on la remplace par d'autres aliments. Lance d'entrée de jeu la directrice de la Coalition québécoise pour la problématique du poids, Corinne Voyer. Les Canadiens ont dorénavant un apport énergétique réduit en glucides, mais plus riche en graisses et en protéines. Ils n'atteignent pas non plus les doses recommandées de vitamines et de minéraux. Le problème, c'est que notre alimentation dépend de la production industrielle, renchérit Janusz Kaczorowski. On est très loin d'une alimentation naturelle. Selon le chercheur au centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, il faut manger le moins possible d'aliments transformés où il y a beaucoup de gras, de sucre et de sel. Combiné à l'inactivité physique et à la sédentarité, une alimentation malsaine explique pourquoi une majorité de Canadiens souffrent d'embonpoint. La population en général est en bonne santé, mais environ un adulte sur cinq est atteint d'au moins une des maladies chroniques majeures, se désole la conseillère médicale à l'Agence de santé publique du Canada, Louise Pelletier. Pourtant, les principales maladies chroniques qui affligent les Canadiens, comme le cancer et les maladies du cœur, seraient en grande partie évitables si ce n'était des mauvaises habitudes de vie. Ce sont des facteurs sur lesquels nous avons un contrôle qui sont modifiables. C'est nous qui choisissons de fumer, de bien manger ou pas, de faire de l'activité physique ou pas. Ça ne dépend que de nous, rappelle la directrice de recherche et de développement à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, Noua Ben-Gayed. La hausse des maladies neurodégénératives, dont l'Alzheimer, est une source d'inquiétude puisque les mauvaises habitudes de vie sont des facteurs de risque supplémentaires dans leur développement, rappelle-t-elle. Et ce ne serait qu'un début, prévient Noua Ben-Gayed. Le nombre de cas de démence doublera d'ici une génération, notamment en raison du vieillissement de la population. La prévalence des maladies chroniques est en augmentation de façon très importante, se désole à son tour le chercheur Janusz Kaczorowski. Les personnes les plus âgées mais plus malades avec même plus d'une maladie. Les maladies chroniques sont responsables de 65% des décès au Canada et demeurent la cause principale de tous les décès prématurés. Malgré tout, la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires et respiratoires est à la baisse, notamment en raison de l'abandon progressif de la cigarette chez les Canadiens. Les campagnes musclées et les différentes lois contre l'industrie du tabac ont donc porté leurs fruits, mais ont-elles monopolisé l'attention au point de négliger d'autres comportements malsains? Au niveau alimentaire, on a été très laxiste, convient Corinne Voyer de la coalition Poids. On a très peu encadré l'industrie, surtout au niveau des produits transformés. On n'a pas réagi assez vite pour voir venir les problèmes et on se retrouve devant les faits accomplis. Le problème est d'autant plus préoccupant chez les jeunes. Le quart d'entre eux souffre d'embonpoint ou est carrément obèse, un sommet atteint il y a 10 ans et qui a peu changé depuis. En plus de mal s'alimenter, beaucoup de jeunes négligent l'activité physique et adoptent très tôt des comportements sédentaires qu'ils conservent en vieillissant. Seulement le tiers des enfants respectent les recommandations de moins 60 minutes d'activité physique par jour. Non seulement ces comportements ont des effets immédiats, mais ils sont aussi inquiétants pour l'avenir. L'obésité en jeune âge et à l'adolescence est l'un des plus importants facteurs associés à l'obésité chez les adultes, précise la conseillère médicale à l'Agence de santé publique du Canada, Louise Pelletier. Et on le sait, l'obésité est associée à plein d'autres maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, etc. Le Canada doit s'attaquer à la prévention des maladies chroniques, martèlent tous les experts. Il y a donc un besoin urgent de politiques et de programmes qui font la promotion des saines habitudes de vie et de la prévention des maladies chroniques. Il faut continuer à faire des efforts de prévention à tous les niveaux, reconnaît Louise Pelletier, au niveau individuel, en aidant les personnes à adopter des bonnes habitudes de vie, mais aussi au niveau communautaire, en encourageant les municipalités à créer des parcs et à développer des pistes cyclables, et au niveau gouvernemental par le développement de politiques en santé. Mais on se compare, on se console. Le Canada demeure malgré tout un pays en santé, comparativement à d'autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Il n'en demeure pas moins que le Canada perd du terrain, étant devenu l'un des pires en ce qui a trait au taux d'obésité. Difficile à présent d'éviter une crise de santé publique, estime Corinne Voyer de la coalition Poids. On est même déjà dans la crise, à mon avis, lance-t-elle, et on réagit beaucoup trop tardivement. On ne verra pas de diminution de l'obésité avant un bon 20 ans, déplore-t-elle, insistant sur le fait que la seule façon de changer la donne est de réagir dès maintenant en se concentrant sur des générations futures.
Merci. L'aéroport de Nice teste la reconnaissance faciale de l'agence France Presse. L'aéroport de Nice commencera lundi, alors ça, c'est, je ne sais plus, c'était la semaine passée, à utiliser la reconnaissance faciale pour le contrôle aux frontières. Deuxième plateforme aéroportuaire française à s'équiper de la sorte après Aéroport de Paris qui gère les escales parisiennes, a-t-il annoncé. La reconnaissance automatique du visage compare le visage du voyageur avec la photo stockée dans le microprocesseur de son passeport biométrique. La technologie est en plein décollage dans les aéroports mondiaux qui cherchent les moyens de fluidifier la circulation des passagers alors que le trafic aérien ne cesse d'augmenter. En France, le déploiement de cette nouvelle génération de systèmes PARAF, passage automatisé rapide aux frontières extérieures, donc le PARAF, était très attendu. Après un été 2017 marqué par une situation chaotique dans les aéroports français où, en pleine saison touristique, le durcissement des contrôles frontières avait provoqué des files d'attente longues et l'exaspération des passagers. L'enjeu est évidemment de réduire les temps de contrôle pour nos passagers sans aucun compromis pour la sécurité, a ainsi expliqué Dominique Tillot, le président d'aéroport de la Côte d'Azur, cité dans un communiqué. Les 16 nouvelles bornes de l'aéroport de Nice remplacent le contrôle par un policier pour les ressortissants de l'Union européenne prenant ou quittant un vol international hors de la zone Schengen. Elles ont été réalisées par le groupe français IN Group, l'ancienne imprimerie nationale qui se positionne désormais comme un spécialiste de l'identité numérique, et le suédois Gunebo, un spécialiste des portails d'accès sécurisés. Selon Didier Trutt, le PDG d'IN Group, la technologie de la reconnaissance faciale permet d'aller plus vite que la technologie de l'empreinte digitale, qui était celle utilisée jusqu'à maintenant dans les systèmes de contrôle automatisé en France. Sûr de la reconnaissance d'empreinte, vous avez 2 passagers par minute en moyenne qui passent, a-t-il expliqué à l'agence France Presse. Sur la reconnaissance faciale, on est plutôt à 3 minutes, a-t-il indiqué. Il n'y a pas de contact physique avec la machine. Cela enlève du stress aux passagers, a-t-il dit. Aéroport de Paris a mis en place ses propres bornes automatisées avec reconnaissance faciale au début du mois de juillet à Roissy et Orly. Ces bornes ont été construites par le groupe français Gemalto, spécialiste des cartes à puces et de la sécurité numérique. À part IN Group et Gemalto, la France compte un troisième spécialiste de la reconnaissance faciale dans les aéroports, IDEMIA, un groupe issu de la fusion en mai 2017 d'Oberture. Technology et Safran et Identity and Security, Morpho. IDEMIA a notamment réalisé à Singapour le système de reconnaissance faciale du révolutionnaire Terminal 4 de l'aéroport de Changi à Singapour. Dans ce terminal, les passagers s'identifient une fois pour toutes par reconnaissance faciale à leur entrée dans le terminal. Ils sont ensuite reconnus automatiquement à travers les différentes étapes de leur parcours, enregistrement des bagages, contrôle de police, embarquement, et n'ont plus à sortir leur passeport. Interrogé sur le taux d'erreur des machines à reconnaissance faciale d'IN Group, M. Trout n'a pas donné de réponse précise, mais a indiqué qu'il respectait les normes en vigueur. Selon ces normes, le taux de faux rejet, c'est-à-dire des rejets non justifiés d'une personne, doit être inférieur à 5%, a-t-il précisé.
On reste à l'international avec un texte de l'agence France Presse sur une étude basée en France, les jeux en ligne, des pratiques plus problématiques que pour les jeux traditionnels. Les jeux d'argent en ligne entraînent des pratiques plus intensives et plus problématiques que les jeux traditionnels selon une enquête menée par l'Observatoire des jeux ODJ auprès de 6200 pratiquants en France. 8 ans après la loi les ayant réglementés, les jeux en ligne, paris sportifs, hippiques, poker, etc., représentent 10% de l'ensemble des dépenses en jeux d'argent dans l'Hexagone. Un total de 15 sociétés, françaises des jeux, PMU, Betclic ou Winamax, sont agréées par l'ARJEL, l'autorité administrative compétente. Les pratiques sur Internet sont globalement plus intensives en termes de fréquence et dépenses et plus problématiques que celles sur les supports traditionnels, résume l'ODJ, organisme public qui dépend du ministère de l'Économie et des Finances dans une note publiée mardi, on est le 24 juillet 2018. Il indique que 2 joueurs en ligne sur 10 sont engagés dans des pratiques leur causant des problèmes plus ou moins graves. 9,4% sont classés comme joueurs à risque modéré et 13% comme des joueurs excessifs en grande difficulté avec leur pratique de jeu. Cette part de joueurs excessifs varie cependant très fortement selon le jeu qu'ils pratiquent principalement. 15,6% pour le poker, mais 8,1% pour les jeux de loterie en ligne. Et au sein de cette dernière catégorie, la proportion de joueurs excessifs est de 3,6% pour le loto, mais de 9,7% pour les cartes à gratter en ligne, tilt, illico. Le joueur en ligne, plutôt masculin, âgé en moyenne de 38 ans et diplômé, dépense en moyenne 1 500 € par an. Mais un joueur sur 10 dépense plus de 3 100 €, un bond par rapport aux 1 200 € constatés en 2012 dans la dernière étude comparable. Les jeux de loterie sont les plus pratiqués, par 7 joueurs sur 10, suivis par les paris sportifs, le poker et les paris hippiques. Près de 2 joueurs en ligne sur 10 pratiquent également des jeux qui ne font pas partie du champ de la régularisation des jeux d'argent, soit parce qu'il n'existe actuellement pas d'offre légale correspondante pour les machines à sous ou les jeux de table casino, soit parce qu'il s'agit d'activités non régulées, paris financiers ou sur le e-sport. Ces constats appellent à des stratégies de prévention du jeu problématique plus effectives et efficaces, souligne l'ODJ, tout en reconnaissant que le développement de pratiques non régulées est un jeu difficile à appréhender. Selon une estimation indirecte de l'Observatoire, entre 2,4 et 2,9 millions de Français, soit environ 5% de la population, pratiquent de jeux d'argent en ligne.
Vous écoutez Les voies de service.
J'aurais 100 ans, toi un peu moins. Je m'allongerai au chaud dans le creux de tes cernes comme un retour au verso. Colmaterai l'hiver de mon rire le plus doux. Je compterai tes rires aux commissures des paupières. Je relirai tes rides. Autant de souvenirs qui ne sont qu'à nous, même si tu les oublies. Même si tu oublies que tu t'oublies.
J'ai 30 ans, toi un peu moins. Je comprends mal les mots que tu t'entends rien. Mais les blessures meurtrières arrosant cet aride, je veux cet avenir qui ne sera qu'à nous.
Petit clin d'œil à un sujet dont on a parlé précédemment sur l'espérance de vie. On vient d'entendre Berry's en duo avec Louis-Jean Cormier et la pièce « J'aurai 100 ans ».
C'était beau. Pique-nique, les festins sur l'herbe de Ève Dumas. Pour certains, le pique-nique se limite à un sandwich avalé sur une nappe à carreaux. Pour d'autres, c'est une pratique beaucoup plus recherchée qui se prépare d'avance. Dès qu'il fait beau, les Montréalais sont nombreux à se monter une petite cuisine au parc et à se griller de jolis festins. Afin de découvrir la diversité des pique-niques d'ici, nous nous sommes promenés au parc Jarry par un samedi de juin bien ensoleillé. C'était un week-end spécial, celui de la fin du Ramadan. Aussi, de nombreuses familles et de grands groupes d'amis disaient-ils adieu aux jeunes avec des mets appétissants et colorés. Une trentaine de Béninois musulmans appartenant au groupe ethnique Yoruba, avaient rempli deux grandes tables avec des spécialités de leur pays natal. C'était exotique à souhait, avec tête de poisson, frites, sauce et pâtes fermentées. Plus modeste, un jeune couple d'origine libanaise s'était installé sous les arbres pour faire griller légumes et brochettes marinées à manger dans un pain plat avec sauce et herbes fraîches. Dans une autre section du parc, une Montréalaise d'origine trinidadienne fête ses 70 ans entourée de sa famille et de ses amis. Ce n'était pas une petite production. Deux barbecues, de grands contenants de salade, un énorme plat d'aluminium rempli de plantains, etc. La panse bien remplie, nous sommes rentrés de Villeray Parc Extension avec tout plein d'inspiration pour préparer les prochains repas sur l'herbe. Alors évidemment, il y a des recettes à l'antillaise, parce qu'il y avait aussi des antillais, avec une recette de chou, mangue, ananas et concombre. Aussi à la béninoise, c'était jour de fête chez les Yorubas du Bénin. On célébrait la fin du Ramadan, comme je l'ai dit plus tôt. Les bonnes pratiques dans les parcs. Envie d'un pique-nique au parc, voici quelques points pertinents du règlement sur les parcs de la ville de Montréal. La grande majorité des parcs de Montréal sont fermés, entre guillemets, de minuit à 6 heures. Ça veut dire que ce n'est pas bon s'y promener. On peut se faire arrêter. Il est permis d'utiliser un barbecue au charbon dans une aire équipée de dépôts à cendres et identifiée à cette fin. Le gaz propane ou le poêle au butane sont normalement interdits, sauf quand la signalisation l'autorise. Dans une aire de pique-nique identifiée à cette fin toujours. Il est interdit d'installer tout équipement, bâche, hamac, jeu, etc., prenant appui sur les arbres, les arbustes ou le mobilier urbain, sauf un équipement installé par un représentant de la ville. Le slackline serait par ailleurs toléré. Je ne sais pas ce que c'est que le slackline, mais c'est toléré. On peut boire de l'alcool dans les parcs avec un repas, assis à une table de pique-nique.
Alors oui, petite précision, moi dans ma grande connaissance, je sais ce qu'est le slackline. Non, je viens de faire une petite recherche, j'avais une idée, mais j'ai quand même validé le tout sur Internet. Donc par slackline, on entend comme une poutre qu'on peut suspendre entre deux arbres. Donc le but est de marcher en équilibre. Ben, c'est une des options possibles, mais c'est ce dont il est question, slackline. Donc une très 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 longue corde tendue entre deux arbres.
Ah, la corde!
Et okay, voilà.
Ouais, pour donc, marcher dessus.
Donc, ceci est toléré dans les parcs de Montréal.
De l'équilibre. Merci beaucoup, Jean-Sébastien.
Grand plaisir.
Yves-Olivier, maintenant.
Oui, alors, toujours une capsule santé sur un produit que je ne recommanderais pas en pique-nique, mais après, vous faites ce que vous voulez. Le titre est « Guérir grâce aux hallucinogènes ». Longtemps associé aux rave et aux années hippies, les drogues psychédéliques se fraient lentement un chemin vers des cabinets de psychiatrie. Ces substances, telles que le LSD et la MDMA, pourraient aider à soigner des problèmes de santé mentale mieux que n'importe quel autre traitement disponible. C'est un test de Bushra Watik de découverte. Plusieurs fois par semaine, John Saul se rend à la plage de Santa Monica à Los Angeles pour y donner des cours de yoga aérien ou encore pour s'entraîner en vue de prochains marathons. L'homme de 53 ans a longtemps mené une vie prospère comme propriétaire d'une entreprise de location de yachts près de San Francisco. « J'étais athlétique, je faisais beaucoup de voiles, je partais faire de longs voyages sur l'océan », dit-il. « C'était mon passe-temps préféré. » Mais en 2012, sa vie a basculé. Il a reçu un diagnostic de sclérodermie, une maladie qui cause un durcissement des tissus. Un des premiers symptômes est que l'on devient très enflé. « Mes bras étaient complètement engourdis », se souvient-il. Cette maladie incurable peut causer la mort lorsqu'elle atteint des organes internes. Durant des années, John Saul pouvait à peine bouger. Le fait d'être physiquement handicapé pour une personne active comme moi, c'est comme si une partie de moi était morte, dit-il. John Saul avait perdu tout espoir jusqu'à ce qu'il entende parler d'une étude clinique menée par le psychiatre Phil Wolfson à Marin, en Californie. L'étude portait sur la psychothérapie assistée par MDMA pour le traitement de l'anxiété due à des maladies potentiellement mortelles, indique John Saul. La MDMA est l'ingrédient actif de l'ecstasy, cette drogue récréative bien connue. Son potentiel thérapeutique est cependant tombé dans l'oubli durant des décennies. La recherche sur les substances psychédéliques remonte au milieu du XXe siècle. En 1943, le chimiste suisse Albert Hofmann ingère accidentellement une substance qu'il avait développée en laboratoire, du LSD ou diéthylamide de l'acide lysergique. Il découvre alors ses effets hallucinogènes. Le LSD fait partie de la catégorie des psychédéliques classiques qui regroupe aussi la psilocybine, l'ingrédient actif des champignons magiques, ainsi que l'ayahuasca, une plante amazonienne. Ces substances sont reconnues pour causer des hallucinations visuelles et auditives. La MDMA, quant à elle, fait partie des empathogènes qui créent un fort sentiment de communion avec les autres. Les psychiatres de l'époque se sont rapidement intéressés à l'effet de telles substances pour aider à traiter les problèmes de santé mentale. Dans les années 50 et 60, la recherche sur les substances psychédéliques était considérée comme la fine pointe de la psychiatrie. Il y avait beaucoup d'enthousiasme au sein de la profession, relate Charles Grubb, psychiatre à l'Université de Californie à Los Angeles. Dans la foulée de la lutte contre la drogue menée aux États-Unis dans les années 70 et 80, les hallucinogènes ont été bannis, mettant fin à la recherche dans le domaine. Des chercheurs, dont Charles Grubb, ont toutefois recommencé à s'y intéresser au courant des années 90. Aujourd'hui, des dizaines de projets de recherche sont en cours à travers la planète. Puisque ces substances sont toujours aussi illégales, les chercheurs doivent respecter des conditions très strictes pour obtenir l'autorisation de les étudier. Le fait de mélanger ces substances à de l'alcool ou à d'autres drogues peuvent être très dangereux, souligne Charles Grubb. Il y a aussi un problème de pureté de ces drogues lorsqu'elles proviennent du marché noir. À l'état pur, les hallucinogènes ont toutefois peu d'effets secondaires et ne créent pas de dépendance. Cependant, puisqu'ils atterrent le jugement, ils doivent être administrés sous supervision médicale. Lorsque John Saul a pris sa première dose de MDMA, tous ses sens ont été exacerbés. Les couleurs sont devenues très riches et le temps a ralenti, se souvient-il. Comme le veut le protocole des études sur les hallucinogènes, John Saul a d'abord suivi plusieurs séances de psychothérapie avec un chercheur afin de bien cerner le problème à régler. Puis, lors d'une séance qui dure plusieurs heures, il a reçu une dose de MDMA. Le chercheur a alors invité à réfléchir à ses problèmes. Sous l'effet des hallucinogènes, le patient arrive à se voir autrement. En temps normal, certaines zones de notre cerveau, appelées réseaux de mode par défaut, sont activées en permanence. Ensemble, ces régions sont responsables de nos pensées récurrentes. Ce réseau est particulièrement actif chez ceux qui souffrent de dépression ou d'anxiété. Les substances psychédéliques viennent activer les nouvelles zones du cerveau et perturbent le réseau de mode par défaut. Cela aide le patient à se libérer de ses pensées habituelles. Ces substances font vivre une expérience profonde et visionnaire dans des conditions optimales. Elle facilite l'introspection, explique Charles Grob. Ces substances psychédéliques classiques comme le LSD aident les patients à prendre du recul face à eux-mêmes. On observe parfois chez les individus une fragmentation ou une désintégration de l'ego, une perte du sentiment de soi, indique Charles Grob. Cela facilite l'entrée dans un psychopsy-rituel profond. Les empathogènes comme la MDMA agissent directement, mais le résultat est semblable. Leur temps d'action est plus court, l'effet stimulant est plus marqué, mais il facilite aussi une introspection importante et soulage l'anxiété, explique le psychiatre. Les partisans à ces études rapportent souvent avoir des révélations. C'est la clé de leur guérison. Avec la MDMA, John Saul a pu comprendre comment redonner un sens à sa vie malgré la maladie qui le menaçait. Mon estime de moi était basée sur la performance de ma carrière. J'ai réalisé que ce n'était pas moi. Je vivais dans le but de plaire à la société, de plaire à mes parents, raconte-t-il. J'ai pu voir comment je devais changer ma vie et je devais tout changer. Je devais me débarrasser de mon entreprise, redéfinir mes relations et faire face à mes problèmes pour avancer dans la vie. Après sa thérapie, il a recommencé à pratiquer des activités physiques et il est devenu depuis instructeur de yoga. Même s'il souffre toujours de sclérodermie, l'exercice a grandement allégé ses symptômes. Le psychiatre Charles Grob a observé des effets semblables sur ses patients. Dans une de ses études, il a utilisé la psilocybine pour aider à soulager l'anxiété sévère de personnes souffrant de cancer. Durant le traitement, nous avons observé que les individus étaient presque capables de se séparer de leur identification à la maladie et de se percevoir autrement, comme lorsque quelqu'un allait mourir, explique-t-il. Ils étaient capables de redonner un sens à leur vie et de retrouver l'identité qu'ils avaient auparavant. La prise de conscience acquise sous l'influence des hallucinogènes est si puissante qu'elle reste imprégnée dans l'esprit du patient, même une fois que l'effet de la drogue s'est dissipé.
Quatre anecdotes sur le barbecue pour briller lors des soirées d'été. Devenez incollable sur ce mode de cuisson qui séduit tant au retour des beaux jours. C'est un texte publié par Camille Kalblen, signé Camille Kalblen. Alors, je dois préciser que c'est un texte européen. Donc, il y a peut-être des petites modification, je vais vous en parler après. Mais au fait, connaissez-vous vraiment tout du monde merveilleux du barbecue? Et là, la petite différence, ils prononcent aussi en France quelques-uns barbecue. Voici quatre infos qui vous permettront de briller lors de vos soirées d'été entre la cuisson des merguez et des côtelettes d'agneau. Non, premièrement, non, le barbecue ne vient pas de la barbe au cul. Voilà une légende qui a la vie dure. On entend souvent que le mot barbecue, trouve son origine au Moyen-Âge, lorsque la cour du roi d'Angleterre s'exprimait encore dans la langue de Molière. À cette époque, après avoir abattu une bête à la chasse, on l'embrochait tout entière, autrement dit de la barbe jusqu'au cul, avant de la faire cuire au-dessus du feu. Selon certains, c'est cette expression qui aurait fini par donner le mot barbecue. Certes éloquente, cette explication est pourtant jugée fantaisiste par les linguistes et les historiens. Dans l'ouvrage The Slow and the Slow Cooked, Culture and Barbecue in the Mid-South, l'ethnobiologiste Gary Paul Nabhan rappelle que le barbecue serait en fait dérivé de l'espagnol « barbacoa ». Ce mot aurait été utilisé par les Espagnols arrivés dans les Caraïbes pour décrire une méthode de cuisson longue, alors utilisée par les populations locales. C'est de tout de suite moins drôle. La sauce barbecue est une vieille invention. C'est aux États-Unis, vraisemblablement au XVIIe siècle, qu'est née cette sauce au goût fumé si caractéristique. Selon un article paru dans le magazine scientifique américain Smithsonian, ce sont d'abord les colons britanniques qui ont eu l'idée d'ajouter une préparation à base de vinaigre lors de la cuisson de la viande pour préserver le jus à l'intérieur des morceaux. La recette s'étoffe ensuite et certaines versions incluent de la poudre d'oignon, des épices, de la sauce tomate ou de la moutarde. Selon Robert F. Moss, auteur du livre « Barbecue, the History of an American Institution », la première commercialisation de la sauce barbecue remonte au début du XXe siècle. L'entreprise Heinz a ensuite sorti sa propre version en 1940. Aujourd'hui, des dizaines de marques différentes proposent leurs recettes à travers le monde. Troisième anecdote. Le plus long barbecue du monde a duré 40 heures. 200 cuisiniers, 60 tonnes de bois, 16,5 tonnes de viande et 14 heures de cuisson. En décembre 2017, la petite ville de Minas, en Uruguay, Amérique du Sud, a battu le record du monde du plus grand barbecue du monde, selon le média britannique BBC. Le but principal de la compétition était de battre le record précédent qui avait été établi en 2008 par l'Argentine. Quant au record du plus long barbecue, il est détenu depuis le 14 mai 2017 par Matteo Maras, Giovanni Meloni et Pierfranco Ligios, trois Italiens qui ont fait griller de la viande durant 40 heures et 53 secondes. Les recordmen concouraient en équipe à l'occasion de l'ouverture d'un grand magasin à Sassari en Italie. Et enfin, les Américains n'ont pas le monopole du barbecue. Aux États-Unis, le barbecue est une véritable institution. Cette pratique populaire s'est même transformée en outil politique depuis les barbecues instaurés par le président Lyndon B. Johnson dans son ranch du Texas, jusqu'à ceux organisés par Barack Obama dans le jardin de la Maison-Blanche à l'occasion de la fête nationale américaine. Pour autant, les États-Unis n'ont pas le monopole du barbecue. Ce mode de cuisson se retrouve en réalité dans beaucoup d'autres cultures. En Argentine, l'asado, une rôtisserie dans laquelle on fait cuire les viandes à ciel ouvert, est une technique très ancienne. En Corée, le bulgogi, viande de feu, plus connue sous le nom de barbecue coréen, désigne une viande marinée avant d'être grillée sur des braises. Ces techniques dateraient de l'ère Koguryo, 37 avant Jésus-Christ, jusqu'à 668 après Jésus-Christ. Au Japon, enfin, la cuisson yakitori, littéralement oiseau grillé, existe depuis l'ère Edo. Cette technique consiste généralement à faire griller des brochettes de poulet, puis de les enduire d'une sauce épaisse à base de mirin, de sauce soya et de sucre.
Un autre texte de Bouchra Wattik de Découverte sur un sujet un petit peu dérangeant, donc la pédophilie. Peut-on en guérir ? Les pédophiles sont parmi les gens les plus détestés de la société, pourtant un grand nombre d'entre eux ne passent jamais à l'acte et souhaitent plus que tout être débarrassés de cette attirance. Y a-t-il un espoir ? En apparence, Xavier, nom fictif, mène une vie tout à fait normale, mais il traîne en lui un lourd secret que même sa famille ignore. J'ai pris conscience très très graduellement que j'éprouve une attirance émotionnelle et physique pour des mineurs. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, surtout sur le plan physique, c'est les jeunes de 14 à 18 ans. Je sais aussi que je suis très vulnérable sur le plan émotionnel pour des garçons, peut-être, jusqu'à 8 ans, avoue-t-il. Xavier est pédophile. Pourtant, il n'est pas un agresseur, il n'a jamais touché un enfant et il ne consomme pas de pornographie juvénile. Dans le langage populaire, les termes pédophile et agresseur d'enfants sont souvent utilisés comme synonymes. Pourtant, sur le plan scientifique, il y a une différence. Selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, la pédophilie implique une excitation sexuelle envers un enfant prépubère, qu'il y ait ou non passage à l'acte. Des recherches indiquent qu'environ 1% des hommes seraient pédophiles. Les experts estiment que les cas de femmes pédophiles sont beaucoup plus rares. La majorité des pédophiles, comme Xavier, ne commettent jamais d'attouchement sur des mineurs. Dans le cas de la pédophilie, je sais que c'est mal, que ce n'est pas quelque chose à faire, dit-il. J'ai pris conscience justement que ça peut être très dommageable pour un jeune d'avoir une relation avec un adulte. D'un autre côté, on estime que les deux tiers des agresseurs d'enfants ne satisfont pas aux critères diagnostiques de la pédophilie. La situation la plus courante où un non-pédophile va commettre une agression sexuelle sur un enfant est une situation d'inceste. Généralement, cela se passe dans les familles très chaotiques, parfois violentes, explique le psychologue James Cantor, chercheur au Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto. On pourrait se retrouver avec quelqu'un qui a, par exemple, commis une agression sexuelle sur un enfant, mais dont l'idée était d'avoir quelqu'un sous son emprise, indique la doctorante en psychologie Sarah-Michelle Neveu, qui évalue les agresseurs sexuels à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Ça aurait pu être une femme saoule, ça aurait pu être une personne âgée, ça aurait pu être un enfant. À ce moment-là, ça a été un enfant. La problématique est beaucoup plus dans la recherche de la domination et du contrôle de la victime. La différence entre les pédophiles qui agressent les enfants et ceux qui ne le font pas est la même qu'entre un homme hétérosexuel normal qui commet un viol et un qui ne le fait pas, souligne James Cantor. Un homme qui commet un viol ou un pédophile qui agresse un enfant ont d'autres problèmes dans leur tête. C'est généralement ce qu'on appelle un comportement antisocial ou dans les pires cas de la psychopathie. Lorsqu'un individu agresse un enfant, il est important de déterminer s'il est véritablement pédophile afin de déterminer son risque de récidive. Quelqu'un qui va le refaire, c'est plus souvent quelqu'un qui a vraiment de la pédophilie, donc qui a une attirance de base en faire des enfants, explique Christian Joyal, chercheur en neuropsychologie à l'Université de Québec à Trois-Rivières et à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Ceux qui l'ont fait sous l'effet de l'alcool, par exemple, ou de l'impulsivité, ou d'une opportunité, vont préférer les adultes. Donc eux, ils risquent moins de récidiver. Christian Joyal et ses collègues ont développé une méthode unique au monde pour mesurer l'excitation sexuelle et ainsi diagnostiquer la pédophilie de manière fiable. Le chercheur en neuropsychologie a d'abord mené ses recherches sur des hommes non pédophiles. Pendant qu'il visionnait des images de pornographie montrant des adultes, les participants subissaient une électroencéphalographie qui mesure l'activité électrique du cerveau. Le chercheur a pu démontrer que lors d'une excitation sexuelle, l'activité cérébrale est plus intense dans l'aire dite sensorielle située au centre du cerveau. Deux autres instruments enregistraient également la réaction des participants. Un plétisomographe pénien, soit un anneau de mercure qui mesurait la circonférence de leur pénis, et un oculomètre qui suivait le mouvement de leurs yeux par ondes infrarouges. Le protocole développé par Christian Joyal est maintenant utilisé pour diagnostiquer la pédophilie au sein du laboratoire d'évaluation des préférences sexuelles de l'Institut Philippe Pinel. Ce laboratoire évalue des hommes qui ont commis des crimes sexuels dans le but de déterminer leur sentence ou d'établir leur risque de récidive. Au laboratoire, les patients sont exposés à des personnages visuels d'enfants, d'adolescents et d'adultes, tous dénudés. Cette approche a été développée par le chercheur en psychologie et directeur du laboratoire Patrice Renaud pour éviter d'utiliser des images d'enfants réels. En utilisant des personnages synthétiques, on contournait cet écueil éthique, explique-t-il.
Cassis, Mona et fille, Passion Cassis, c'est de Iris Gagnon-Paradis dans la presse. Établie à l'île d'Orléans depuis plus de 20 ans, l'entreprise Cassis, Mona et fille est un arrêt incontournable lors d'une visite dans l'île d'Orléans. L'endroit, installé dans une magnifique grange ancestrale, compte notamment une cave à vin où déguster les alcools de la maison, dont la réputée crème de Cassis, et une boutique gourmande. On peut aussi s'y arrêter pour casser la croûte sur la terrasse du restaurant La Monaguette et conclure avec une délicieuse crème molle, la torsade vanille cassis. Un délice. Petite nouveauté, les soirées 5 cassis de 17 à 18 heures tous les jours avec un choix de 5 kirs pétillants. Et je peux continuer avec une mini histoire de Moustache et Milou. Moustache et Milou, eh bien voilà, Air Transat ouvre ses cabines aux animaux de compagnie depuis tout récemment. Moustache et Milou, maintenant, vont pouvoir être admis sous certaines conditions à bord de vols d'Air Transat. Le transporteur a annoncé cette semaine que les chats et les chiens de 10 kg et moins, poids de la cage inclus, pourront voyager avec leur maître en classe économie et ce, sur la majorité des vols. En cas d'allergie d'un autre passager, des mesures d'accommodement seront prises. Coût du transport, $50 par segment de vol dans le sud, vers le sud, les États-Unis et à l'intérieur du Canada, et $90 vers l'Europe. Voilà, c'était ce qui mettait un terme à notre petite émission Les Voies de Service Magazine. Merci Jean-Sébastien, merci Yves-Olivier. À la semaine prochaine.